At the conclusion of President
À la fin du discours du président Monson, le chœur chantera Carillon. Il sera dirigé par Gerald F. Simon et accompagné par Amy Webster. Ensuite, Byron Quist McKay fera la prière de clôture. J'ai maintenant l'honneur de présenter l'orateur de ce soir. Thomas S. Monson est le 16e président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, depuis le 3 février 2008. Auparavant, il était conseiller dans la première présidence depuis 1985. Il a servi aux côtés de frère Benson, frère Hunter et frère Hinckley. Il s'est engagé dans la marine des États-Unis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il a épousé Frances Beverly Johnson en 1948 au temple de Salt Lake City. À 22 ans, il a été appelé comme évêque des 6e et 16e paroisses de Salt Lake City, qui avait été regroupé. Plus tard, il a servi dans la présidence de Pieux comme président de la mission canadienne de l'Église. À 36 ans, en octobre 1963, il a été ordonné apôtre et appelé comme membre du Collège des 12 apôtres. Il a obtenu une licence en gestion des affaires avec mention très bien de l'Université d'Utah, puis une maîtrise de gestion de l'Université Brigham Young. Il a fait carrière dans l'édition et l'imprimerie, d'abord comme responsable de la publicité au Deseret News, puis comme directeur général de Deseret News Press. Il a fait partie du conseil d'administration de plusieurs entreprises. Il a reçu un grand nombre de distinctions pour des actions civiques et humanitaires, notamment celle des Sœurs de la Charité de Saint-Joseph à Salt Lake City qu'il partage avec Sœur Monson. Les Monson ont 3 enfants, 8 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. Nous sommes ravis de pouvoir écouter notre prophète bien-aimé ce soir, Président Monson.
My dear young friends,
mes chers jeunes amis, l'esprit dont est empreinte cette réunion qui se tient au Marriott Center de l'Université Brigham Young et dans des centaines d'autres lieux de par le monde est le reflet de votre force, de votre dévouement et de votre bonté. Combien je suis reconnaissant d'être avec vous ce soir. Vous me rappelez les paroles du poète Henry Wadsworth Longfellow. Comme la jeunesse est belle, avec quel éclat elle brille, avec ses illusions, ses aspirations et ses rêves. Livre des commencements, histoire sans fin. Chaque jeune fille est une héroïne, chaque homme est un ami. Je suis reconnaissant de la présence de chacun de vous, ainsi que de celle de membres de ma famille ce soir. Récemment, j'ai relu l'un de mes romans de Charles Dickens préféré, De grandes espérances. Si vous avez lu ce classique, vous vous rappellerez que Dickens y parle d'un jeune garçon du nom de Philip Pirrit, plus communément appelé Pip. Le petit Pip était un orphelin, qui ne se rappelait même pas avoir jamais vu sa mère ou son père. Il désirait tout ce que désire un garçon normal. Il aurait voulu de tout son cœur être un érudit. Il aurait voulu être un gentleman. Il aurait voulu être moins ignorant. Mais toutes ses ambitions, tous ses espoirs semblaient voués à l'échec. Jusqu'à ce qu'un jour, un avocat londonien du nom de Jaggers vienne trouver le petit Pip et lui dise qu'un bienfaiteur inconnu lui avait légué une fortune. Après quoi, l'avocat avait passé son bras autour des épaules de Pip et lui avait dit, « Mon garçon, vous avez de grandes espérances. Aujourd'hui, en pensant à ce que vous êtes, à ce que vous pouvez être et pouvez devenir, je vous dis, comme l'avocat l'a dit à Pip, que vous avez de grandes espérances. » Non en raison d'un bienfaiteur inconnu, mais du fait d'un bienfaiteur connu, à savoir votre Père Céleste, et que l'on attend de grandes choses de vous. Beaucoup de vous qui êtes ici ce soir sont prêts de terminer leurs études. D'autres On va pouvoir se réjouir de cela. D'autres ont encore une période de préparation académique devant eux. Chacun est dans ce que l'on pourrait appeler la course de la vie. L'auteur du livre d'Ecclésiaste a écrit « La course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, mais à ceux qui endurent jusqu'à la fin. » La course est si importante, la récompense si précieuse, qu'il faut absolument accorder une grande importance à toute la préparation nécessaire. Quand nous réfléchissons à la nature éternelle de nos choix, nous voyons que la préparation est un facteur essentiel dans notre vie. Le jour viendra où nous repenserons à notre période de préparation et serons reconnaissants de nous être appliqués comme il le fallait. Il y a de nombreuses années, quand j'étais appelé au Collège des 12, l'occasion m'a été donnée de prononcer un discours lors d'une conférence d'hommes d'affaires à Dallas, au Texas, qu'on surnomme la ville des églises. Après la conférence, j'ai fait en bus une visite guidée des banlieues de la ville. Tandis que nous passions devant les magnifiques églises, notre chauffeur commentait « À gauche, vous voyez l'église méthodiste, ou à droite, c'est la cathédrale catholique. » Quand nous sommes passés devant un beau bâtiment de briques rouges, situé sur une colline, le chauffeur a dit « C'est l'édifice où les Mormons se réunissent. » De l'arrière du bus, une voix de femme a demandé « Chauffeur, pouvez-vous nous dire quelque chose sur les Mormons ?» Le chauffeur a garé le bus dans la rue, s'est retourné sur son siège et a répondu « Madame, tout ce que je sais sur les Mormons, c'est qu'ils se réunissent dans ce bâtiment de briques. » Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le bus qui sait quelque chose sur les Mormons? Vous avez deviné, j'ai observé l'expression du visage de chacun, guettant un signe de reconnaissance, une indication d'un désir de faire un commentaire. Je n'ai rien vu, pas le moindre signe. J'ai vu alors combien est vrai la déclaration. Quand le moment de décision est là, il n'y a plus de temps pour la préparation. Au cours des 15 minutes suivantes, j'ai eu la bénédiction de donner raison d'espérance qui est en nous. Comme l'a dit l'apôtre Pierre l'autre fois, j'ai alors pris beaucoup plus conscience de l'importance de la préparation. En fait, mes jeunes amis, votre préparation n'a pas commencé le jour de votre premier cours à l'université. Elle a commencé bien longtemps avant, même avant votre venue dans la mortalité, quand vous viviez en tant qu'esprit, qu'enfant d'esprit de notre Père Céleste. Je suis extrêmement reconnaissant que dans sa sagesse, il nous ait donné un récit, le livre d'Abraham, qui nous parle de cette existence. Vous connaissez ces passages de la perle de Grand Prix. On va bientôt le savoir, en tout cas. Or, le Seigneur m'avait montré à moi, à Abraham, les intelligences qui furent organisées avant que le monde fût. Et parmi toutes celles-là, il y en avait beaucoup de nobles et de grandes. Et Dieu vit que ces âmes étaient bonnes. Il se tint au milieu d'elle et dit, « De ceci, je ferai mes dirigeants. » Car il se tint parmi ceux qui étaient esprits, et il vit qu'ils étaient bons. Et il me dit, « Abraham, tu es l'un d'eux. Tu fus choisi avant ta naissance. » Et il y en avait un parmi eux qui était semblable à Dieu. Et il dit à ceux qui étaient avec lui, nous descendrons, car il y a de l'espace là-bas. Nous prendrons ces matériaux et nous ferons une terre sur laquelle ceux-là pourront habiter. Nous les mettrons ainsi à l'esprit, à l'épreuve, pour voir s'ils feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur commandera. Et ceux qui gardent leur premier état recevront davantage. Ceux qui ne gardent pas le premier état n'auront pas de gloire dans le même royaume que ceux qui gardent leur premier état. Et ceux qui gardent leur second état recevront plus de gloire sur leur tête pour toujours et à jamais. » Fin de citation. Puis dans la sagesse de notre Père Céleste, vous et moi sommes nés dans la condition mortelle et avons été accueillis dans les familles aimantes. J'en profite pour vous dire au passage combien votre famille prie pour vous et se soucie pour vous. Elle vous aime tant. Ne les décevez pas. Dans les doctrines et alliances, le Seigneur nous dit qu'au cours des 8 premières années de notre vie, le pouvoir n'est pas donné à Satan nous tenter quand nous sommes de petits enfants. Nous avions une avance de 8 ans sur Lucifer. Pensez-y. Cela a été indiqué par le Seigneur au prophète Joseph en 1830. À notre époque, un célèbre expert des sciences sociales, Dr. Glenn Doman, qui n'avait absolument jamais entendu cette révélation citée, est, par ses recherches, parvenu à la conclusion qu'un nouveau-né est la réplique quasi exacte d'un ordinateur, bien qu'il lui soit supérieur à presque tous les égards. Il a ajouté ce que l'on place dans le cerveau d'un enfant au cours des 8 premières années, il demeurera probablement toujours. Si on y met de fausses informations pendant cette période, il est extrêmement difficile de les effacer. L'âge le plus réceptif de la vie humaine est de 2 à 3 ans. Fin de citation. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi le président Monson souligne-t-il ce point? Nos 8 premières années sont passées depuis longtemps. Mais mes frères et sœurs, vous serez parents un jour. Et il serait bon de vous souligner l'importance de cette période des 8 premières années auprès de vos enfants et des générations à venir de vos descendants. Quand je pense à certaines des choses que vous et moi avons sans doute fait quand nous étions enfants, adolescents et jeunes adultes, je me dis que c'est parfois un miracle que les parents aient survécu, et encore plus qu'ils ne soient pas devenus fous. Une femme qui avait eu une matinée très éprouvante à essayer de maîtriser ses enfants croyait qu'elle allait perdre la tête. Son petit garçon, Matthew, est venu lui dire, tout heureux, « Maman, tu te rappelles le vase que ta grand-mère a donné à ta mère ?» Et que t'as donné, que t'as toujours eu peur qu'on casse? Oui, Matthew, a-t-elle dit. Eh bien, a-t-il répondu, tu n'as plus besoin d'avoir peur.
Mes
frères et sœurs, vous êtes entrés dans une autre grande période de préparation afin de vous qualifier pour la course de la vie. Je parle de la préparation scolaire universitaire. Elle est très importante, parce que c'est là que nous apprenons les leçons qui nous aideront à relever les défis du monde changeant dans lequel nous vivons. Il n'y a que quelques générations de cela, si quelqu'un postulait pour un poste de responsabilité dans le monde des affaires, le directeur du personnel lui demandait probablement, êtes-vous disposé à travailler dur? Êtes-vous en bonne santé? Et si les réponses à ces questions étaient affirmatives, le candidat avait des chances d'être embauché. Bien entendu, ce n'est pas le cas aujourd'hui. En supposant que la candidature, généralement envoyée par courriel, aboutisse à un entretien d'embauche, le directeur des ressources humaines modernes demandera « Quel diplôme avez-vous ? Que pouvez-vous apporter à notre entreprise? Quel logiciel maîtrisez-vous? Et ainsi de suite. Il y a de nombreuses années, j'ai eu l'occasion d'enseigner à l'université. Et je me souviens que certains étudiants semblaient savoir où ils allaient. Ils s'appliquaient, ils avaient des objectifs, ils avaient des buts et travaillaient dur pour les atteindre. Mais d'autres étudiants s'en moquaient totalement. Ils semblaient dériver sur la mer du hasard, menacés d'être engloutis par les vagues de l'échec. D'abord, ils tombaient dans la paresse, ensuite dans le découragement, puis dans l'indifférence, et enfin, ils laissaient tomber leurs études. L'un de ces étudiants qui avait laissé tomber est rentré chez lui et a dit à sa mère, « Maman, j'ai arrêté mes études. Je vais me débrouiller par moi-même dans la vie. » Il a fait sa valise et est parti affronter la vie. Au bout de 3 semaines de cet affrontement, il a appelé sa mère. Il lui a dit, « Maman, tu te souviens, quand je suis parti, tu m'as dit que si j'arrêtais mes études, je ne me trouverais pas de travail. Tu avais tort. Je suis parti que depuis 3 semaines et j'ai déjà eu 6 emplois. » Votre quête de l'excellence exige un véritable effort. Rappelez-vous, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. La vie est un océan qui humilie les orgueilleux, démasque ceux qui fuient les responsabilités et révèle les dirigeants. Pour y naviguer en toute sécurité et parvenir au port que vous souhaitez rejoindre, vous devez tenir vos cartes à jour et à portée de main. Vous devez apprendre de l'expérience d'autrui, défendre fermement vos principes, élargir vos horizons, être compréhensif pour les droits qu'ont les autres de naviguer sur le même océan et être digne de confiance de l'accomplissement de votre devoir. Vos efforts dans vos études auront un effet notable sur les possibilités qui s'offriront à vous par la suite. Dans vos efforts pour avoir une bonne moyenne, ne négligez pas l'importance d'apprendre réellement à penser, à réfléchir. Henry Ford, le grand industriel, a dit, « Un homme instruit n'est pas quelqu'un dont la mémoire est formée à retenir quelques dates de l'histoire. C'est quelqu'un qui est capable d'accomplissement. Un homme qui n'est pas capable de penser n'est pas un homme instruit, quel que soit le nombre de diplômes universitaires qu'il a obtenus. Penser est la chose la plus difficile. C'est probablement pourquoi nous avons si peu de penseurs. » Fin de citation. Plus importante que notre période de préparation académique est la préparation spirituelle. Nous devons obtenir le témoignage personnel de l'Évangile de Jésus-Christ, témoignage qui constituera une encre pour notre âme. Dans cette période de recherche et d'incertitude de votre vie, certains d'entre vous se demandent peut-être, comme Pilate, le procurateur de Judée, à l'époque du Christ, qu'est-ce que la vérité? Là encore, nous cherchons la réponse dans la Révélation. Je cite, « Et ce qui n'édifie pas n'est pas de Dieu. Il y a ténèbres. Ce qui est de Dieu est lumière. » Des milliers d'âmes honnêtes, en recherche, continuent de se heurter à cette question profonde qui traversait l'esprit de Joseph Smith quand il examinait les déclarations des églises de sa région concernant le bien et le mal, la vérité et l'erreur. Joseph Smith a dit, au milieu de cette guerre de paroles et de ce tumulte d'opinions, je me disais souvent, lequel de tous ces partis a raison? Ou ont-ils tous tort, autant qu'ils sont? Si l'un d'eux a raison, lequel est-ce? Et comment le saurais-je? Enfin, j'en vins à la conclusion que je devais, ou bien rester dans les ténèbres et la confusion, ou bien suivre le conseil de Jacques, c'est-à-dire demander à Dieu. Il a prié. Ce sont les propres paroles de Joseph Smith qui rendent le mieux compte des résultats de cette prière. Je vis 2 personnages dont l'éclat et la gloire défient toute description et qui se tenaient au-dessus de moi dans les airs. L'un d'eux me parla, m'appelant par mon nom, et dit, en me montrant l'autre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute-le. » Joseph écouta, et il apprit. Sa question avait trouvé sa réponse. Il n'est pas nécessaire que les gens qui recherchent humblement trébuchent et défaillent sur le chemin qui mène à la vérité. Il est bien balisé par notre Père Céleste. Nous devons d'abord avoir le désir de savoir personnellement. Nous devons étudier. Nous devons prier. Nous devons faire la volonté du Père. Alors, nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous rendra libres. Dieu accorde ses faveurs à ceux qui le recherchent humblement. C'est une promesse que je vous fais. Réfléchissez-y. Rappelez-vous que la foi et le doute ne peuvent pas exister dans le même esprit au même moment, car l'un chasse l'autre. Le doute détruit, alors que la foi accomplit. Une attitude pleine de foi rapproche de Dieu et de ses desseins. Le président Mackay a souvent déclaré, lui qui m'a appelé au Collège des Douze il y a très longtemps, il a donc déclaré, quand il a mis ses bras autour de moi, combien il m'aimait lorsqu'il m'a appelé. Cela m'a réconforté, consolé. Je suis le dernier membre des douze appelé par le président Mackay. Il a souvent dit, l'existence terrestre de l'homme n'est qu'une épreuve permettant de voir s'il concentrera ses efforts, son esprit et son âme sur ce qui contribue au confort et aux satisfactions de sa nature physique. Aussi fera de sa vie une quête des qualités spirituelles. Fin de citation. La foi, je vais penser de quelque chose à propos du président Mackay. La première fois que j'ai été avec le Collège des Douze, la première présidence, il a fait ce commentaire sur moi. Il m'a demandé, Frère Monson, quel chant voudrez-vous chanter comme cantique d'ouverture? J'ai dit, j'aime bien les vieux cantiques de la prêtrise, comme celui que nous allons chanter ce soir. Et Frère Lee a joué l'orgue. Nous avons tous chanté. Lors d'une réunion ultérieure, une réunion de témoignage, il a dit, avant de distribuer la Sainte Cène, nous aimerions que le plus récent de nos apôtres, Frère Monson, instruise la première présidence du Collège des Douze du sacrifice expiatoire du Christ. Frère Monson, la porte me semblait bien loin, difficile à atteindre. Il a fallu que je m'avance et que je fasse. Je me souviens que la foi implique une confiance certaine dans la parole de notre Créateur. Si vous aviez des pensées pleines de doutes, j'espère que vous n'en avez pas, mais si vous en avez, suivez le conseil de Stephen L. Richards, ancien premier conseiller dans la première présidence, qui a déclaré, dites tout simplement à ces pensées sceptiques, troublantes et rebelles, je me propose de conserver ma foi, la foi de mon peuple. Je sais qu'elle apporte le bonheur, la satisfaction. Et j'interdis à l'incertitude et au doute de détruire la maison de ma foi. Je reconnais que je ne comprends pas le processus de la création, mais j'en admets le fait. Je reconnais que je ne peux pas expliquer les miracles de la Bible, mais je n'essaie pas de le faire. Mais j'accepte la parole de Dieu. Je n'étais pas avec Joseph, mais je le crois. La foi ne m'est pas venue par la science, et je ne permettrai pas à la science de la détruire. Fin de citation. À vous, dans la période préparatoire des études touche à sa fin, et qui vous lancez dans la grande course de la vie, j'adresse quelques conseils qui vous aideront à réaliser vos grandes espérances. Premièrement, évitez les pièges de la piste. Évitez les détours qui vous priveraient de votre récompense céleste. Vous pouvez la reconnaître si vous voulez. Ils peuvent porter le panneau rien qu'une fois, cela ne l'apporte pas. Ou mes parents sont si démodés. Ces pièges peuvent aussi être de mauvaises habitudes. Au départ, nous pourrions nous en débarrasser si nous le voulions. Plus tard, nous voudrons bien nous en débarrasser, si seulement nous le pouvions. John Dryden, influent poète et dramaturge anglais du XVIIe siècle, a dit « Les mauvaises habitudes prennent de l'ampleur à notre insu, graduellement, comme les ruisseaux font les fleuves, et que les fleuves vont à la mer. Les bonnes habitudes, elles, sont les muscles de l'âme. Plus on les utilise, plus elles se renforcent. Notre Père Céleste nous a recommandé de rechercher tout ce qui est vertueux, aimable, de bonne réputation ou digne de louange. La licence, l'immoralité, la pornographie et la force de la pression de groupe poussent beaucoup de gens, tels des bateaux à la dérive qui vont se fracasser contre les éperons rocheux, vers le péché, avec son lot de possibilités manquées, de bénédictions perdues et de rêves brisés. Tout ce que vous lisez, écoutez ou regardez, fait une impression sur vous. Évitez tout ce qui peut ressembler à la pornographie. Elle est dangereuse et crée la dépendance. Si vous continuez de regarder la pornographie, votre esprit sera insensibilisé et votre conscience s'émoussera. N'ayez pas peur de sortir avant la fin d'un film, d'éteindre la télévision ou de changer de station de radio si ce qu'on y présente n'est pas conforme aux principes de votre Père Céleste. En bref, si vous n'êtes pas certain que tel film, tel livre ou telle distraction sont bons, ne les regardez pas, ne les lisez pas, n'y participez pas. Deuxièmement, méfiez-vous de l'enthousiasme du départ et veillez à finir votre travail. J'aime la vérité simple qu'exprime ce poème d'un auteur anonyme. Je ne crois pas que ce soit un chef-d'œuvre littéraire. Peut-être qu'on ne pourrait pas faire mieux. Moi, je parle pour moi-même, en tout cas. Attachez-vous à votre tâche jusqu'à ce qu'elle s'attache à vous. Beaucoup commencent, mais peu arrivent au bout. Le pouvoir, les lauriers, les éloges et l'honneur sont toujours pour celui qui demeure. Attachez-vous à votre tâche jusqu'à ce qu'elle s'attache à vous. Soyez courbés sous elle, transpirez sous elle, souriez surtout, car c'est de la courbure, de la sueur et du sourire que viennent les victoires de la vie. Pour qui s'est attendre? La formule suivante est intéressante. Le travail produit le bien, les rêveries n'aboutissent à rien. Je
ne
vais pas le répéter 10 fois par contre. Une attitude de travail donne la capacité de faire des efforts continuels en vue d'atteindre un but donné. J'ai toujours été un supporter sportif enthousiaste. Je me souviendrai longtemps d'un reporter qui faisait les louanges de Tittle, d'un des grands arrières de football américain professionnel. Il a dit, nous arrivons à la phase décisive du match. Tittle reçoit la passe du centre. Il recule pour lancer la balle. Mais ses défenseurs ne résistent pas à la charge. Le match semble perdu. Attendez! Tittle a échappé au plaquage. Il s'enfonce loin derrière sa ligne. Il arme son bras et fait la passe. Le receveur récupère la balle et aplatit dans l'embute. Excellente deuxième tentative de Tittle. Dans le match de la vie, une seconde tentative est souvent nécessaire. À nulle époque, le bonheur ne fait son entrée dans la vie avec tambours et trompettes. Il grandit en nous année après année, peu à peu, et un jour, nous nous rendons compte que nous l'avons. On l'atteint par une somme de travail accomplie si bien qu'on peut lever la tête avec assurance et regarder le monde avec confiance. Suivez l'exemple de Christophe Colomb. Inspirez-vous d'une page du journal qu'il a écrit pendant sa première traversée. Jour après jour, tandis que son équipage et lui espéraient en vain trouver une terre, il écrivait « Aujourd'hui, nous avons poursuivi notre navigation. » Fin de citation. La persévérance apporte de grandes récompenses. Troisièmement, aider les autres dans leur course de la vie. Rappelez-vous que quand vous aidez quelqu'un à gravir une montagne, vous rapprochez vous-même du sommet. Essayez de regarder votre frère ou votre sœur depuis la bonne perspective. Un homme a dit, « J'ai regardé mon frère à travers le microscope de la critique. » Et j'ai dit, « Comme mon frère est grossier. » Ensuite, j'ai regardé mon frère à travers le télescope du mépris. Et j'ai dit, « Comme mon frère est petit. » Puis j'ai regardé dans le miroir de la vérité. Et j'ai dit, « Comme mon frère me ressemble. » La mission du maître était caractérisée par une attitude d'amour. Il a donné la vue aux aveugles. Imaginez cela, des jambes aux paralytiques et la vie aux morts. Quand nous serons face à notre Créateur, peut-être ne demandera-t-on pas combien de postes as-tu détenu, mais combien de gens as-tu aidé? En réalité, on ne peut jamais aimer le Seigneur sans servir, en servant son peuple. Quatrièmement et dernièrement, demandez l'aide du Seigneur. Les âmes, la vôtre et la mienne, sont précieuses. Notre Père Céleste lui-même l'a dit. Souvenez-vous que nous ne courons pas seuls dans cette grande course de la vie. Nous avons droit à l'aide du Seigneur. L'apôtre Paul a lancé cette exhortation aux Hébreux. Rejetant le péché, accomplissons avec patience la course qui s'offre à nous, en prenant pour exemple Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Avant de pouvoir avoir la compagnie du Christ, avant de pouvoir le suivre comme guide, nous devons le trouver. Pour cela, je vous suggère, premièrement, de lui faire de la place dans notre vie. Il a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Fin de citation. Luc, le médecin, a décrit la scène de la nativité. C'est beau. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. L'invitation du Seigneur s'adresse à chacun de nous. Pensez à vous-même, personnellement. Et écoutez ce que le Seigneur vous dit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et j'ajouterai, mes jeunes frères et sœurs, faites de la place pour le Seigneur dans votre foyer et dans votre cœur et vous accompagnera. Il sera à vos côtés. Il vous enseignera les voies de la vérité. Avec son aide, avec la préparation dont nous avons parlé, vous pouvez avancer dans la course de la vie et à réaliser vos grandes espérances. Alors, quand tout sera fini, vous pourrez dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Si vous le faites, les bénédictions du ciel vous seront accordées. Le Seigneur, qui remarque le passereau qui tombe, reconnaîtra votre service à sa manière. Je vais vous raconter une expérience qui illustre cette assurance. Edwin Q. Cannon, fils, était missionnaire en Allemagne en 1938. Il y aimait les gens et a servi fidèlement. Après sa mission, il est rentré à Salt Lake City. Il s'est marié et a créé son entreprise. 40 ans ont passé. Un jour, Frère Cannon est entré dans mon bureau et m'a dit qu'il avait trié ses photos de mission pour en jeter quelques-unes. C'est ce qu'on fait tous. Parmi ces photos qu'il conservait depuis sa mission, il s'en trouvait plusieurs qu'il ne pouvait pas identifier précisément. Chaque fois qu'il avait voulu les jeter, il s'était senti poussé à les garder, sans savoir pourquoi. C'était des photos qu'il avait prises pendant sa mission, quand il servait à Stettin, en Allemagne. On y voyait une famille, une mère, un père, une petite fille, un petit garçon. Il savait que leur nom de famille était Bernd, mais il ne se souvenait de rien d'autre à leur sujet. Il m'a dit qu'il croyait savoir qu'il y avait un Bernd qui était dirigeant de l'église en Allemagne. Il pensait, quoique ce fût peu probable, que ce Bernd pouvait avoir un lien avec les Bernds qui habitaient autrefois à Stettin et qu'on voyait sur les photos. Avant de jeter les photos, il s'était dit qu'il allait s'en assurer auprès de moi. J'ai dit à Frère Cannon que je partais sous peu pour Berlin, où je m'attendais à voir Dieter Bernd, le dirigeant de l'église, et que je lui montrerais les photos pour voir s'il y avait un lien. Et s'il voulait les photos. Il y avait aussi une possibilité que je voie la sœur de frère Bernd, qui était mariée à Dietmar Matern, présidente de Pieux à Hambourg. Le Seigneur ne m'a même pas laissé aller à Berlin avant d'accomplir ses desseins. À Zurich, en Suisse, où je me suis embarqué pour Berlin, devinez qui a embarqué dans l'avion en même temps que moi. Dieter Bernd. Il s'est assis à côté de moi et je lui ai dit que j'avais de vieilles photos de gens du nom de Bernd, de Stettin. Je lui ai tendu les photos. Je lui ai demandé s'il connaissait les gens sur les photos. Il les a regardés attentivement et s'est mis à pleurer. Il a dit « Notre famille vivait à Stettin pendant la guerre ». Mon père a été tué quand une bombe alliée est tombée sur l'usine où il travaillait. Peu après, les Russes ont envahi la Pologne et la région de Stettin. Ma mère nous a emmenés, ma sœur et moi, et nous avons fui l'avance de l'ennemi. Nous avons dû tout laisser derrière nous, y compris les photos que nous avions. Frère Monson, je suis le petit garçon de ces photos. Et ma sœur est la petite fille, l'homme et la femme sont nos chers parents. Jusqu'à ce jour, je n'avais aucune photo de mon enfance à Stettin, ni de mon père. En essuyant mes larmes, j'ai dit à frère Bernd qu'il pouvait garder les photos. Il les a rangés soigneusement et affectueusement dans son portefeuille. Lors de la prochaine conférence générale, quand Dieter Bernd est venu à Salt Lake City, il a rendu visite à frère et sœur Edwin Cannon fils pour les remercier de l'inspiration que frère Cannon avait eue de garder ces précieuses photos et d'avoir suivi l'inspiration de les avoir gardées pendant 40 ans. William Cooper a écrit les vers suivants. Dieu prend des chemins mystérieux pour accomplir ses prodiges. Il pose ses pieds dans la mer et chevauche la tempête. Ne jugez pas, Seigneur, avec vos faibles sens, mais ayez confiance en sa grâce. Derrière les rigueurs de la providence, il cache un visage souriant. Je vous rends ce témoignage, le témoignage que Dieu vit, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, qu'il est notre frère aîné, notre Rédempteur, qu'il est le Sauveur, l'auteur de vos grandes espérances. Je vous donne ma bénédiction et vous exprime mon amour. Vous êtes une génération précieuse. Une génération de choix aux grandes espérances. Puisse notre Père Céleste vous guider et vous bénir. Et puissiez-vous toujours vous efforcer de réaliser ces grandes espérances. C'est là ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.